Bonjour à tous. Alors, je vais continuer de prospecter les panneaux qui sont à l'autel, comme j'avais fait le mois dernier. Et cette fois-ci, je veux vous parler d'un prêtre, le père Emmanuel d'Alzan, et de Anne-Marie Javoué, une religieuse. Et avec Anne-Marie Javoué, il y a un petit clin d'œil à nos pères spiritains. Voilà. Donc, je vais commencer par le père Emmanuel d'Alzan. Alors, Emmanuel d'Alzan est né le 30 août 1810 au Vigan. C'est une région fortement marquée par le protestantisme. Et cette cohabitation, loin de le rendre plus fragile dans sa foi, ne fit que l'ancrer avec plus de force dans le catholicisme. Après des études au séminaire de Montpellier, puis à Rome, où il est ordonné prêtre le 26 novembre 1834, il revient en France où il est nommé vicaire général du diocèse de Nîmes, poste qu'il occupera pendant 44 ans au service de 4 évêques successifs. En 1844, il reprend à Nîmes le collège de l'Assomption destiné aux enfants de l'aristocratie et qui est donc à l'origine de sa future congrégation. Cette appellation est caractéristique, car l'Assomption de la Vierge Marie n'était alors qu'une croyance traditionnelle. Elle sera reconnue plus tard par un dogme, par le pape Pie XII, le 1er février 1950. Par son langage volontiers populaire et par ses idées, le père d'Alzan s'oppose non seulement à l'anticléricalisme de l'écrivain Anatole France, ainsi qu'à Monseigneur Dupanloup, tel que le peint l'écrivain Ernest Renan, pour qui une bonne éducation classique était le complément naturel du catholicisme. Il collabore volontiers avec Don Guéranger. Don Guéranger fut le restaurateur du chant grégorien. Il collabore aussi avec Louis Veuillot, directeur du journal L'Univers, et d'autres militants du catholicisme. La revue de l'enseignement chrétien qu'il fonde et dirige s'attache à réintroduire l'esprit chrétien dans les études classiques et pour combattre le protestantisme dans la France du Sud, il crée l'association Saint-François de Sales. Le jour de Noël 1845, il fonde la congrégation des Augustins de l'Assomption ou Assomptionnistes, de spiritualité donc augustinienne. La congrégation obtient l'approbation diocésaine et le bref de louange en 1857. Elle est approuvée par le pape Pie IX en 1864 et exprime son identité dans une règle de vie composée de la règle de saint Augustin et de constitution propre aux Assomptionnistes. À la demande de l'évêque de Nîmes, Monseigneur Plantier, Emmanuel d'Alzan se rend à Rome avec d'autres prêtres chez le pape. C'est le commencement des grands pèlerinages français appelés pèlerinages nationaux, tel celui de Lourdes en 1873, dont les directeurs furent pendant de nombreuses années des Assomptionnistes. Ils fondent des écoles apostoliques qui permettent de faire des études à des enfants pauvres appelés au sacerdoce, lesquels, faute d'argent bien entendu, n'auraient pu être admis dans les séminaires. Les Assomptionnistes vont ouvrir 15 de ces maisons en 25 ans et fourniront plus de 500 prêtres au clergé séculier. Pour soutenir ce travail de charité, le père d'Alzan fonde l'association Notre-Dame des Vocations, qui est enrichie de nombreuses indulgences par le pape Pie IX et, après lui, Léon XIII. Alors, le père d'Alzan, c'était un catholique ultramontain. Alors, ça vous dit peut-être plus grand-chose maintenant, mais à l'époque, il y avait on va dire, deux courants au sein de l'Église, le courant ultramontain, qui est un courant affirmant la primauté spirituelle et juridictionnelle du pape sur le pouvoir politique et donc la subordination de l'autorité civile à l'autorité ecclésiastique, contrairement au gallicanisme qui prône l'existence d'une Église de France relativement indépendante du Saint-Siège et autonome au sujet des nominations d'évêques. Alors la devise du père d'Alzon, c'était « agir pour Rome, toujours, contre, jamais, quelquefois, sans ». Je précise également que le cher père Desgenettes était aussi ultramontain. Alors le père d'Alzon va entamer un dialogue avec la mission d'Orient en 1862. Le pape Pie IX lui avait suggéré d'aller en Orient pour travailler à l'unité chrétienne. Et donc, après, en lien avec les pèlerinages nationaux, il fonde le journal Le Pèlerin en 1873. Le journal La Croix sera fondé après sa mort en 1883. En 1865, est fondée la Congrégation des Oblats de l'Assomption, qui sont des religieuses missionnaires à vocation œcuménique et caritative. Auparavant, en 1839, Sainte Marie-Eugénie Migret, qui a été canonisée en 2007, avait fondé la Congrégation des Sœurs de l'Assomption et, en 1841, elle entra sous la direction spirituelle du père d'Alzon avec pour devise « Que ton règne vienne ». La période des fondations continue, puisqu'en 1865, le père Étienne Pernet fonde la congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption et il avait confié cette mission particulièrement à Notre-Dame des Victoires. Plus tard, en 1896, le père Picard fonde les Orantes de l'Assomption, dont la mission est de prier pour les œuvres de l'Assomption. La devise de cette grande famille de l'Assomption est « avoir une seule âme et un seul cœur tourné vers Dieu ». Le père d'Alzon invitait les membres de sa congrégation à se centrer sur l'essentiel, l'amour de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de l'Église. Les assomptionnistes ont des activités diverses, recherche théologique, attention particulière aux églises orientales, aux vocations pour le service de l'Église et à la communication du message chrétien par l'action sociale et les médias. Le père d'Alzon disait « Ma passion à moi serait la manifestation de l'homme-Dieu et la divinisation de l'humanité par Jésus-Christ. » Je précise qu'il est mort en 1880. Voilà. Après le prêtre, je vais vous parler de la religieuse. Je pense que beaucoup d'entre vous, au moins, ont entendu parler de la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Alors, Anne-Marie Javoué, elle est née le 10 novembre 1779 à Jallanges, en Côte d'Or, au sein d'une famille de 10 enfants. Et en pleine Révolution française, elle se consacre à Dieu avec ses 3 sœurs, lors d'une messe clandestine. Adolescente, elle instruit les enfants pauvres de son village et des alentours. Et après avoir cherché sa voie, auprès de congrégations religieuses, elle rencontre le pape Pie VII en 1804. Le pape était venu pour le couronnement de Napoléon. Ce même pape l'encourage dans ses désirs profonds. L'évêque d'Autun lui demande la même année de rédiger les règles d'une nouvelle union pieuse, regroupant autour d'elle quelques jeunes filles, ainsi que ses trois sœurs qui prononcent leurs vœux ensemble à l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône en 1807. C'est la naissance d'une congrégation nouvelle sous le patronage de Saint-Joseph pour s'occuper d'enfants pauvres. En 1809, elle installe au grand séminaire d'Autun, qui est maintenant un lycée militaire, des classes mixtes afin de pourvoir à l'éducation des enfants issus de milieux pauvres. En 1812, la congrégation s'installe dans l'ancien couvent des Récollets de Cluny, devenu bien national et qui est racheté par Balthazar Javoué pour ses filles. La congrégation prend désormais de Saint-Joseph de Cluny. Cette congrégation qui a pour but l'éducation va se faire remarquer à Paris par sa qualité éducative. Et le ministère de la Marine et des Colonies lui demande de tenter l'aventure, donc dans les colonies. Des sœurs embarquent pour l'île Bourbon, actuelle île de la Réunion, en 1817 au Sénégal, en 1821 en Martinique, 1821 aussi, pardon, et en Guinée et en Guadeloupe en 1823. Chronologiquement, c'est la première congrégation de femmes missionnaires. Anne-Marie Javoué arrive à Mana, en Guyane, en août 1828, avec 36 sœurs, 39 agriculteurs adultes, dont 5 couples et 11 enfants, en ajoutant 12 ouvriers qui doivent rejoindre Mana séparément. L'effectif total est donc de 98 personnes. Et pour cette mission, le gouvernement français lui confie la préparation de 500 esclaves noirs à la liberté. La colonie de Mana obtient une certaine autonomie vis-à-vis de l'administration de Cayenne. La plupart des colons laïcs rentrant en France, Anne-Marie Javoué fait face à cette baisse d'effectifs en achetant 32 esclaves noirs. En 1835, 2 ans après son retour en métropole, elle recueille du gouvernement 520 noirs travaillant sous l'autorité de Cayenne. Le mouvement abolitionniste prend de l'ampleur à cette époque derrière le poète et écrivain Alphonse de Lamartine dans les années 30. En 1838, 10 ans avant l'abolition définitive de l'esclavage, Anne-Marie Javoué préside à l'émancipation de 185 esclaves, dont 85 recevront la propriété d'un demi-hectare de terre. Elle disait : « Les Noirs ne sont sourds ni à la voix de la morale, ni à celle de la civilisation. Fils du Père commun, ils sont hommes comme nous. » Alors, elle fonde également un petit séminaire, d'où les premiers prêtres indigènes du Sénégal. En fait, si l'on comprend bien, Anne-Marie Javoué ne libère aucun esclave à proprement dit, puisqu'elle impose 2 conditions à leur affranchissement : un engagement de travail non rémunéré pendant 7 ans, qui prolonge en quelque sorte leur esclavage, et leur conversion au christianisme. Plutôt qu'abolitionniste, elle est partisane d'une émancipation graduelle et croit que sous un maître éclairé, un esclave est heureux. Harcelée par ceux qui craignaient et s'opposaient à elle, elle arrive néanmoins à influencer beaucoup de propriétaires de plantations pour qu'ils traitent mieux leurs esclaves et son œuvre put survivre lors de l'abolition de l'esclavage. Il n'y eut pas de grandes émeutes de la part des Noirs, en grande partie à cause des meilleures conditions de vie comparées à celles des autres esclaves en Guyane, parce qu'elle avait pu obtenir pour eux beaucoup de conditions améliorées dans leur travail et leur existence. La majorité d'entre eux s'étaient convertis au christianisme et faisaient baptiser leurs enfants. À sa mort, le 15 juillet 1851, 1200 religieuses sont réparties sur les 5 continents. Anne-Marie Javoué a été béatifiée par le pape Pie XII en 1950. Alors Anne-Marie Javoué avait confié sa congrégation à Saint-Joseph. Cependant, l'article 1er des Constitutions indique que l'Institut est consacré au cœur de Jésus, source de toute grâce et de toute perfection, et au cœur immaculé de Marie, copie fidèle du cœur de Jésus. Anne-Marie Javoué et ses filles avaient besoin de la puissance de l'amour maternel renfermé dans le cœur de la Vierge Marie et de la sainteté de sa vie pour l'imiter dans l'accomplissement fidèle de la sainte volonté de Dieu. Le procès-verbal des délibérations du Conseil souligne que dans la neuvaine préparatoire à la consécration, 3 messes seront dites à Notre-Dame des Victoires. Alors, je ne sais pas, c'est comme pour le père d'Alzon, je n'ai pas eu la réponse à ma question, sont-ils venus à Notre-Dame des Victoires ? Bon, je pense que si sont les panneaux de l'autel, ils sont certainement venus, mais je n'en ai pas trouvé la preuve écrite. Voilà. Mais j'aime bien le croire quand même. Alors, à l'époque du retour définitif de la mère Javoué en France, le 4 août 1843, le père Liberman, qui allait devenir le supérieur des spiritains, entra en relation avec Anne-Marie Javoué pour le projet du séminaire africain. Quand on connaît les relations du père Liberman avec Notre-Dame des Victoires, j'en reviens toujours à ma question, comment ne pas supposer que Mère Javoué soit allée sur son conseil recommander aux prières de l'archiconfrérie ses missions, puisque l'abbé Desgenettes s'était fait aussi l'apôtre des Noirs auprès du Saint-Cœur de Marie. Alors ce qui est certain, c'est que le père Desgenettes fut mis en rapport avec la maison mère de Saint-Joseph de Cluny par le père Schwindelhammer, qui était le successeur du père Liberman et conseiller de mère Rosalie Javoué. L'aumônier de la congrégation, le père Jean-Baptiste de la Place, depuis 1853, spiritain lui aussi, affilia la communauté de Paris le 23 mai 1854. Alors il y a un exoto qui est au pied là, juste au milieu où il y a la porte pour monter à l'hôtel. C'est marqué Magnificat 1854-1954, Congrégation Saint-Joseph de Cluny. Voilà. Alors il a affilié aussi la congrégation de Carcassonne, celle de Beauvais et Compiègne à l'archiconfrérie. Toujours à la demande de mère Rosalie Javoué, qui avait succédé à sa sœur Anne-Marie. Il avait auparavant prêché le carême à Notre-Dame des Victoires et il avait écrit peu après à sa mère « Marie a eu pitié de moi, car il me semble que je m'en suis tirée à peu près convenablement. » Alors une cérémonie eut lieu le 8 décembre 1854 dans la chapelle de la Congrégation qui était à l'époque rue Saint-Jacques à Paris. Le père de la place fut d'abord apprécié la signification, la valeur et l'importance de l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie, puis recommanda aux prières de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires quelques intentions. Et après la consécration devant la statue de la Sainte Vierge, il fut procédé à son couronnement. Le père de la place posa un diadème sur la tête de Marie. La cérémonie terminée, le père annonça qu'il allait porter les vœux, les prières et la donation de la congrégation à Notre-Dame des Victoires. Alors, en d'autres occasions, les liens entre la Maison Mère de Saint-Joseph de Cluny et Notre-Dame des Victoires ont été resserrées. Le 12 mars 1857 fut célébré le cinquantenaire de la fondation de l'Institut et de la profession religieuse des mères Anne-Marie, Marie-Joseph et Rosalie, donc sœurs d'Anne-Marie. L'abbé Desgenettes donna le salut solennel de clôture de ce jubilé. Et enfin, le 15 août, on arrive au XXe siècle, 1947, la supérieure générale de l'époque remit à la statue de la Sainte Vierge de la Maison Mère les insignes de mère générale. C'était une croix d'argent avec un cordon bleu. Et cette croix avait été offerte à la mère Rosalie par le pape Pie IX. Cette croix contient les reliques de la Passion de Jésus. Et une plaque de marbre porte cette inscription en lettres d'or: « J'ai été établie mère générale perpétuelle, 15 août 1947 ». Voilà. Pour finir, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny viennent régulièrement ici rendre grâce à Notre-Dame des Victoires. Merci. Je vous souhaite par avance, puisqu'on ne se reverra pas, un bon Noël, un bon début d'année, et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Bonne journée.